Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Laurence Garcia.
Et à 9h-10, c'est le petit déj de l'actu avec Yael Mellul et Philippe Béjart qui sont avec nous. Là, en studio.
Oui, absolument. Ah. Et puis, vos appels au 0826-300-300, n'hésitez pas à réagir. Ce qui vous interpelle, vous, dans l'actualité, en fait, ce matin, alors c'est peut-être les discriminations à l'embauche. Là, vous avez entendu parler de ça dans les différents journaux ce matin. Donc, 25% d'après cette étude. Alors, les entreprises contestent la méthode. C'est vrai que ça a été un peu surprenant parce qu'on s'est adressé directement aux managers et pas aux DRH dans les grandes boîtes qui contestent cette méthode, la façon dont ça a été fait. Donc, vous pouvez évidemment réagir. Dans les autres sujets, il y a le surendettement. Il y a une baisse quand même du surendettement en France grâce à différentes techniques qui ont permis de réduire de 50%. Et puis, il y a toujours évidemment les municipales avec cette dernière ligne droite, la couleur verte, on l'a vu avec David Béliard. Puis, il y a toujours aussi ce sujet des violences et des agressions, le harcèlement. On va en parler en fait aussi avec vous parce que Yael Mellul, vous avez beaucoup travaillé dans le Grenelle des violences faites aux femmes. Là, cette semaine a été quand même marquée par cette histoire dans le patinage, dans le sport, où on dit qu'il y a la fin peut-être de l'omerta dans le sport avec beaucoup de pratiques d'agressions sexuelles, etc. De gens qui savaient mais qui ne parlaient pas. Bon, déjà, c'est une bonne chose qu'il y ait cette libération de la parole. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, ces affaires ne seraient peut-être pas sorties.
Hein. Elles ne sont pas sorties il y a 20 ou 30 oui. ans. Je veux dire, ce sont pour certaines, enfin, des affaires qui ont commencé il y a des décennies. Ouais. Aujourd'hui, il y a une libération de la parole, mais pas que, il y a surtout une libération de l'écoute en réalité. Mmh. C'est que ces femmes-là, si elles avaient parlé il y a 10 ou 20 ans, on ne les entendait pas. Mmh. Il y a un changement dont il faut se féliciter hein, dans la société. C'est la société aujourd'hui qui écoute, qui entend ses victimes, qu'on n'entendait pas avant. Donc ça, c'est un pas qui...
Alors qu'on n'entendait pas, mais est-ce qu'on ne pouvait pas les entendre si on ne parlait pas aussi, non?
Mais elles ne pouvaient pas parler.
Bah oui, c'est ça.
Il y a eu une évolution assez spectaculaire d'ailleurs, il faut s'en féliciter, oui. du traitement médiatique des affaires de violences faites aux femmes en général. Moi, j'ai le souvenir dans les...
Et puis du harcèlement en général aussi.
Oui, quand je parle de violence, je parle d'harcèlement, d'agression sexuelle, de violence conjugale. Il y a un véritable... les médias se sont emparés au fil des années de ces affaires-là. Par exemple, on ne parle plus de crimes passionnels dans les médias, ce qui était le...
Dans le cadre des violences conjugales.
Dans le cadre des violences conjugales, mais cette transformation de sémantique a aussi participé à ce que les femmes, je parle des femmes victimes, se sentent davantage en confiance pour parler. Et il y a aussi eu un autre phénomène, c'est le fait qu'elles aient la possibilité aujourd'hui de pouvoir libérer cette parole-là sur les réseaux sociaux. C'est malheureux d'en arriver là quelque part.
Ce ne sont pas que les réseaux sociaux, en l'occurrence ce sont des livres qui ont permis... c'est la méthode traditionnelle et ancienne. Quoi,
hein. Absolument, mais je veux dire par là que si on en arrive aujourd'hui à ce que des femmes aient le courage de parler de ce qu'elles ont subi au travers du livre, c'est qu'en amont, il y a aussi eu cette préparation-là de toutes ces femmes qui ont parlé dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que le phénomène de libération de la parole de MeToo et de Balance ton porc,
C'est passé par
les réseaux sociaux. Ouais. Et si les femmes en sont arrivées à parler aux réseaux sociaux, c'est parce qu'elles n'avaient pas d'autres supports. Hein.
Ouais.
C'est en ça où c'est malheureux quelque part, mais il faut aussi s'en féliciter.
Hein. Ouais. Philippe Béjart.
Je suis frappé, Patrick, ceux qui savaient ne parlaient pas, et ceux qui pouvaient arrêter le processus ne faisaient rien. Alors, ça projette tout de même une terrible lueur rétrospective sur les agissements dans le silence, dans l'indécence, dans le pouvoir, dans la dépendance. Le seul bémol que je ferais peut-être, mais encore une fois, je suis totalement d'accord avec Yael Mellul sur ce plan, c'est qu'il faudra tout de même pas, à l'avenir, tout mélanger. C'est-à-dire que je suis persuadé que dans la proximité qu'on a parfois avec les femmes, il y a des gestes qu'on accomplit qui ne sont pas forcément indécents. Je veux dire, et j'ai l'impression qu'on est dans une phase, et je peux la comprendre, où on met tout sur le même plan, le grave, le relativement moins grave et parfois le geste totalement de bonne foi.
Ah oui, c'est... Oui.
Mais c'est juste un bénin.
Regarde une femme, alors, sur ce que vient de dire Philippe Béjart. Votre regard, Yael Mellul, par rapport à ça.
Alors pour moi, il n'y a pas de petite violence. Voilà,
dans mon esprit, c'est voilà. Par les violences.
Effectivement, il peut y avoir un détournement par certaines de ce mouvement admirable de libération. Mais comme pour tout, j'ai pas envie de m'attarder sur cet accessoire, j'ai envie de dire, sur cette anecdotique. Ce qui me semble le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ce que vous disiez, Philippe, c'est qu'on brise cette omerta.
Ah oui, c'est voilà. Clair.
Ça, c'est spectaculaire quand on sait que cette omerta, elle procède dans chaque... Elle est identique, d'ailleurs, dans chaque caste, en réalité. Que ce soit le monde du cinéma, le monde politique, le monde des livres, on l'a vu dans le monde de l'édition. Cette omerta, elle est absolument identique dans chaque caste, et qu'aujourd'hui, dans chaque milieu, il y ait certaines femmes qui aient le courage aujourd'hui d'évoquer ces agressions graves, très très graves pour certaines, dont elles ont été victimes, et que tout le monde connaissait dans le milieu.
Tout le monde le savait, pour Matzneff, pardonnez-moi, mais tout le monde le savait, pas vrai,
c'était écrit dans ses livres.
Le grand public ne savait pas, mais d'accord,
on pouvait allumer la télé aussi et le voir dans des émissions, il suffisait.
On parle du milieu professionnel.
Quand on prend l'exemple, Yael Mellul par exemple et Philippe Bidger du sport, du patinage, souvent on se dit oui, alors tout le monde savait, et finalement quand vous interrogez le milieu, les gens disent on pensait qu'il y avait telle chose, mais on n'était pas certain, etc. Il y avait un peu ça, quoi. Et comme il y avait une crédibilité, pas forcément toujours une crédibilité de la parole de victimes auparavant, c'est ce qui change peut-être,
Patrick,
aujourd'hui. Non
pour,
vous, le magistrat,
pour
Philippe
Gabriel Gerdi. Matzneff, vous avez totalement raison, parce que si ça avait concerné la France tout entière, l'aval et l'odieux consentement à ce qu'il théorisait de manière très claire n'auraient jamais existé.
Même s'il était dans des émissions.
Mais
ça, c'est
là
vrai, vous avez raison.
Je rejoins Yael, dans les milieux professionnels, lorsqu'on dit « c'est connu », alors il y a la lâcheté qui fait qu'on n'ose pas le dire, qu'on n'ose pas le révéler, mais je crois...
Et puis parce qu'il faut être certain aussi en même temps, non ?
Et puis, il n'y a pas que ça, hein, Philippe, il y a aussi les intérêts qui sont en jeu.
Bien sûr.
On le voit aussi... dans l'affaire Polanski, cette affaire Polanski fait beaucoup, beaucoup de mal aux droits des femmes. Je veux dire, on a l'impression, on assiste aujourd'hui à un spectacle qui est assez hallucinant en réalité, parce que d'un côté, on a ce phénomène de libération de la parole est admirable, qui est spectaculaire, et d'un autre côté, on a 12 nominations au César pour Roman Polanski.
Mais c'est normal.
Ah bah, attendez, on va en reparler.
On fait une pause.
Il y a les menus Philippe Bigère. On en parle dans un instant. Ne vous inquiétez pas, on va continuer d'en parler.
Séparer l'œuvre de l'artiste. On en parle dans quelques instants. Allez, c'est la suite du petit-déj de l'actu avec, bien sûr, Yael Mellul et Philippe Bidger. Mais avant de retrouver nos chroniqueurs, mon cher Patrick, nous avons au téléphone Laurent Laïgue, maire d'Estavar dans les Pyrénées-Orientales.
Bah oui, parce qu'il y a une manifestation cet après-midi dans les Pyrénées-Orientales après l'effondrement de la Nationale 16, hein, pendant la tempête Gloria. On arrive aux vacances scolaires. Beaucoup de gens vont être sur les routes, notamment dans les Pyrénées. C'est un peu compliqué parce qu'il y a les zones de Montpellier, de Toulouse, de Paris, là, qui sont concernées par ces vacances ce soir. Bonjour Laurent Laigue.
Bonjour.
Alors pourquoi vous organisez la manifestation cet après-midi pour demander à l'État ou aux régions, à la région, aux collectivités d'intervenir ?
Oui, effectivement, pour activer et accélérer les choses, parce que nous nous trouvons dans une situation catastrophique au point de vue, premièrement, comme vous l'avez rappelé, économique, puisque les vacances scolaires de nos zones et de la zone de Paris commencent ce soir.
Oui, bah oui. Et qu'est-ce qu'on vous dit alors qu'est-ce qu'on vous répond quand vous dites, écoutez, regardez cette route, c'est pas possible après cet effondrement ?
On sait exactement que cette route n'est plus praticable et qu'on sait que ça sera très long. On parle de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Donc, il faut trouver des alternatives. Donc, effectivement, nous ne sommes pas complètement enclavés. Hein, les touristes peuvent venir en Cerdagne et Capcir par la route donc de Foix ou par la route de l'Aude entre Axat et Formiguère. Mais au point de vue
ça fait pour les gens qui sont de l'autre côté dans les Pyrénées-Orientales sur la côte, ça fait quand même un gros détour, non?
Ça fait un détour de une heure et demie.
Ah oui, quand même.
Oui, par la route d'Axat, si la route d'Axat est praticable, parce qu'elle aussi, elle connaît des petits problèmes avec des éboulements. Hier, il y avait déjà de l'alternance, parce qu'il y a des éboulements. Les camions et les bus ne peuvent pas passer. Ils sont obligés de faire le tour par Foix. Et donc là, c'est effectivement 3h30 de plus.
Oui, bon bah écoutez, bon courage à vous. Donc, manifestation cet après-midi. Elle a lieu où, Laurent Lègue?
Alors, la manifestation a lieu à Mont-Louis et c'est un rassemblement, c'est pas une manifestation puisque nous n'allons pas couper la route puisqu'il n'y a personne qui y passe dessus, mais c'est un rassemblement de toute la population de Cerdagne-Capcir, pas seulement des élus, nous espérons essentiellement qu'il y ait toute la population, mais également de la Cerdagne espagnole puisque tout le monde est impacté et donc nous espérons pouvoir faire accélérer les choses pour nous désenclaver.
Oui. Merci à Laurent Lègue, bon courage, hein, maire d'Estavard dans les Pyrénées-Orientales. On va suivre évidemment l'évolution de ce dossier, et pour les gens qui vont prendre la route, bien sûr, pour aller dans les Pyrénées, bah écoutez Sud Radio aussi en même temps si le trajet est un petit peu plus long. Voilà, ça passe très très bien dans toute la région. Merci à vous. Le petit déjeuner de l'actualité, on poursuit. Normalement, j'attendais un petit jingle, mais bon, voilà. Non, parce que juste avant Philippe Bidger, Yaël Mellul, qui sont toujours avec nous, on va se souvenir aussi quand même de cela, mon cher Philippe Bidger.
Olivon, servi par Athèse, c'est l'essai peut-être du capitaine français, l'essai à Boudin, oui. Deuxième essai. Deuxième essai français, les collègues. Charles Olivon, le capitaine, tout seul dans un coin. Tout seul, le stade semble s'arrêter un peu. Il y a une chandelle. On ne sait pas qui c'est qui la prend. Y aurait-il un avant ou non? L'arbitre, on le regarde, il dit rien.
Ouais. Alors, Philippe Bidger.
Première mi-temps fabuleuse. Ils ont tenu durant la deuxième. Ouais. Mais j'espère que ça va durer. Parce que la France est géniale sur un match et le lendemain, ça ne va pas.
Ouais.
Mais
j'espère qu'ils vont
battre l'Italie même dimanche.
Yael Mellul, donc c'est le 15 de France.
Ah voilà, merci.
Oui, merci aussi.
Contre l'Angleterre.
On a abordé un sujet universel, mon cher.
Bien sûr. Et suivi par les femmes. Moi, j'étais en fait dans les tribunes. Il y avait beaucoup de femmes. Bien sûr. C'est quand même majoritaire. Homme, ça, faut le reconnaître. Quoi. François Triot, vous êtes avec nous. France, Italie, donc c'est dimanche après-midi à suivre sur Sud Radio. Vous avez entendu Philippe Bidger à l'instant, il disait ouais, mais alors avec les Français, on s'habitue à un bon match et puis après, il retombe dans les travers. Il faut rester concentré, quoi.
Il faut rester concentré. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'est vrai que c'est un peu un mal français, cette inconstance. Voilà, c'est vrai qu'historiquement, on a été les champions dans l'inconstance. Il apparaît quand même que face aux Italiens qui ont pris 42 points face aux Gallois, on a quand même une petite marge, même si bon, il y a un des joueurs principaux du 15 de France, Vakatawa, qui sera forfait.
Oui, qui sera forfait, qui va être remplacé par Vincent, c'est ça, Arthur.
Voilà, Arthur Vincent, la jeunesse de Montpellier. Arthur Vincent, hein, ancien capitaine des moins de 20 ans, champion du monde l'an dernier.
Oui, c'est ça. Bah, du coup, il va y avoir plusieurs Montpelliérains. Il s'entend bien aussi avec Boutier qui joue derrière, quoi. Non,
mais de toute façon, on sent qu'il y a une énergie. Hein, on va dire, on l'a ressenti, Patrick, vous étiez au stade, on l'a ressenti au stade. On a ressenti que c'était aussi le début de quelque chose, le début d'une histoire, le début d'un groupe. Et c'est vrai qu'il y a de la jeunesse, un peu d'inexpérience. Mais je pense aussi qu'il y a un staff qui est très préparé et qui connaît parfaitement, on va dire, ce mal français de l'inconstance dont parlait Philippe. Et donc, je pense qu'ils seront prémunis contre une baisse de régime face aux Italiens.
Ouais.
Ça m'apparaît quand même assez faible. Hein.
Bon, donc ce match doit permettre de capitaliser de la confiance à ce groupe qui a bien entamé contre l'Angleterre pour pouvoir poursuivre et surtout contredire Philippe Bidger.
Ah, mais j'en serais ravi, pour une fois.
Merci, mon cher François, et ce sera donc à suivre en direct, évidemment, sur Sud Radio, dimanche à 16h, bien sûr. Et puis, on suivra aussi en fil rouge les matchs de samedi, toujours de ce tournoi des Six Nations.
Allez, les 9h10. On retrouve Yael Mellul et Philippe Bilger.
Oui, sur ce sujet des violences sexuelles, des agressions et de la fin peut-être de cette omerta, comme vous le disiez tout à l'heure, Yael Mellul, ça fait du bien que la parole se libère enfin aujourd'hui, quoi.
Ben j'ai envie de dire, il était temps.
Ouais,
était temps qu'elle se libère. Il était temps qu'on les entende. Il était temps il est temps que la justice donne confiance
alors
à ces femmes-là.
Voilà, c'est ça. C'est la justice.
Elle, voilà, pour qu'elle dépose plainte, parce que c'est pas le tout. D'aller sur les réseaux sociaux ou d'écrire des
livres.
Ça, c'est quelque chose de fondamental pour la victime. Ne serait-ce que d'un point de vue, j'ai envie de dire, thérapeutique, pour qu'enfin elle puisse nommer ce qu'elle a vécu après l'avoir tue pendant autant d'années. Mais après, il faut aussi que la justice se saisisse de ces problématiques-là. Mais pour cela, il faut que les victimes aient confiance dans la justice. Et je pense que c'est là aussi que le bât blesse un petit peu.
Oui.
Et c'est là où j'en reviens aussi à Polanski. Parce que c'est dans ce sens-là où il y a une petite faille encore du système pour que les femmes aient totalement confiance dans ce système-là précisément. Parce que très rapidement, je rappelle quand même que Roman Polanski a fui son pays, donc les États-Unis à l'époque, avant l'audience qui devait prononcer sa peine d'emprisonnement, ensuite de l'aveu de culpabilité qu'il avait fait, parce que une jeune fille de 13 ans donc avait été victime de viol après avoir été alcoolisée et droguée. Donc elle a été violée et sodomisée par Roman Polanski. Ça, ce sont les faits.
Oui.
Voilà. Donc, on se retrouve 30 ans après.
Ah, même plus, là.
Non plus, même.
Oui, oui, bien sûr. Beaucoup plus.
Plus de 30 ans après, on se retrouve dans une situation où Roman Polanski est nominé 12 fois au César. Quel est le message que la société française, que le monde du cinéma, je ne vais pas parler de la société française, que le monde du cinéma envoie aux victimes de violences? Le message, c'est qu'il y a une impunité totale, même lorsqu'un homme a avoué ce crime. C'est ça, en réalité, la problématique.
Je ne crois pas. Sur les deux plans, il faut autant ce qu'a accompli Roman Polanski, et c'est indiscutable, et tout à fait transgressif et odieux, mais il ne faut pas tout confondre. L'œuvre Dreyfus, par exemple, Les Césars, c'est quelque chose qui renvoie à un talent qui est complètement extérieur à la personnalité. Ça n'est pas Mats Neff, par exemple, qui théorise ce qu'il accomplit tous les jours sur les plans criminels et délictuels. Et pour la justice, Patrick, au regard de l'expérience que j'ai eue aux assises, il est évident que la justice, à chaque fois qu'elle a été saisie, je l'ai trouvé sévère, très justement sévère, et parfois sur mes réquisitions. Et c'est d'autant plus nécessaire, je rejoins Yael, que la criminalité, la délinquance sexuelle sont tout à fait particulières. Même la victime, toujours innocente, a besoin du procès pour entendre qu'elle est totalement innocente. Il faut que son coupable soit condamné.
L'une des difficultés, en dehors de l'affaire Polanski, parce qu'elle est compliquée, c'est quand même aux États-Unis, etc. Et tout. C'est vrai aussi que, par exemple, dans l'affaire de Sarah Bitbol, dans l'affaire Mats Neff, les faits sont prescrits au regard de la justice, c'est 30 ans après. Là, c'est un véritable problème. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Elles se posent la question, en fait, aujourd'hui. C'est des faits qui remontent à des années, qui sont probablement prescrits. Pourquoi les raconter aujourd'hui, en dehors de provoquer, alors, quoi. Non, mais vous voyez, parce que bien souvent, c'est difficile de le faire admettre aussi par son entourage.
Absolument.
Justement,
et c'est là, parce que c'est un argument, évidemment, qu'on nous oppose très habituellement. Pourquoi elle n'est pas partie avant quand il s'agit de femmes de violence conjugale? Pourquoi elle parle maintenant et pourquoi elle ne l'a pas fait avant? Et c'est là où c'est très important d'appréhender ce concept qui n'est pas si compliqué que ça, d'ailleurs. Je veux dire, c'est la mémoire traumatique et le stress post-traumatique. Pour un cas classique, j'ai envie de dire. Je ne vais pas parler de ce qui se passe dans les mondes particuliers du cinéma, parce que c'est encore autre chose. Mais pour un cas classique, je veux dire, il ne faut pas s'arrêter à l'acte ponctuel, j'ai envie de dire, de l'agression sexuelle, de la violence. Je veux dire, il y a les blessures qui découlent
bien
pour
sûr,
la victime.
Bien sûr, non, mais ça c'est vrai, c'est le traumatisme.
De cet acte isolé-là. Ouais. Et les blessures qui en découlent, ouais. Ben, ça va être parfois pour certaines victimes une certaine paralysie de sa mémoire.
Ouais, bien sûr,
pour la protéger, ouais. Pour qu'elle puisse éventuellement avoir une vie un petit peu normale pendant quelques années. Jusqu'à ce qu'à un moment...
Avant d'amener ce débat, parce que le temps file, on a une auditrice qui nous attend là depuis un petit bout de temps, Camille du Tarn-et-Garonne, qui voulait intervenir à ce sujet. Bonjour Camille.
Oui. Bonjour.
Oui, bonjour Camille. Oui.
Bonjour.
Oui, vous vouliez réagir sur ce sujet aussi. Hein.
Oui, moi je voulais dire que ça ne me semble pas étonnant que la parole de la femme se libère tardivement, étant donné que la femme n'a eu le droit de vote qu'en 1944, le droit de travailler sans autorisation du conjoint en 1965... et que l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne date que de 1993. Donc, elle avait des pressions quand elle avait subi, je dirais, l'autorité du monsieur, du mâle, j'allais dire.
Et on parlait même de puissance paternelle avant.
Oui.
Hein.
Aujourd'hui, vous pensez que la parole peut se libérer plus facilement? Là, on parle de certains milieux, hein, c'est-à-dire le patinage, les médias, on l'avait évoqué aussi dans le monde politique, mais est-ce que dans des affaires, dans des secteurs plus communs, on va oser parler, selon vous, Camille?
Dans certains secteurs.
Oui.
Mais ce qui permet aussi de libérer la parole, effectivement, ce sont les réseaux sociaux.
Oui.
Où on peut témoigner, je dirais, presque, les gens pensent de façon anonyme.
Oui. Alors, là, c'est ce qui est dangereux, c'est qu'après, il y a une sorte de lynchage sur les réseaux sociaux et que la justice, elle doit se faire avant tout aussi dans les palais de justice, quoi,
Patrick,
normalement. Non,
bien sûr.
Oui. Philippe Bigère, oui, restez avec nous, hein, Camille.
Ce qui m'importe, c'est je suis tout à fait d'accord avec le traumatisme qui est induit par les agressions et qui fait qu'on tarde à parler, et je suis persuadé qu'à une certaine époque, une minorité peut-être de femmes n'était pas absolument consciente de la gravité de ce qui était accompli.
Ah ben ça c'est vrai. Camille, vous avez été de près ou de loin concernée par des affaires comme ça, de harcèlement?
Ben, j'étais chef d'établissement pendant une quinzaine d'années dans le secondaire, donc j'ai eu quelques situations à signaler.
Oui.
Voilà.
Des situations que vous aviez ressenties et à l'époque, ben, on n'en parlait pas, quoi, c'est ça?
Des confidences. Des confidences. Jeunes, et donc la nécessité de signaler.
Et vous faisiez des signalements ou pas?
Oui.
Et est-ce qu'il y avait des suivis?
Il y avait sûrement des suivis, mais il n'y a pas de retour d'ascenseur. On ne sait pas ce qui se passe après.
C'est vrai.
Tant mieux.
Merci, hein, Camille, pour votre témoignage. Vous nous appeliez ce matin. En conclusion, Yael Mellul.
Oui, je voudrais juste rajouter par rapport à la mémoire traumatique. Ça, c'est pour le cas classique, mais quand en plus les agressions ont eu lieu dans ces fameuses castes, que ce soit le monde du cinéma, le monde de l'édition. Et le monde du sport. Il faut rajouter à cela l'impunité, justement, de ces hommes-là et leur caractère intouchable qui empêche ces femmes-là de parler parce qu'elles savent très bien qu'elles n'auront pas de poids suffisant face à la puissance de la personne qu'elles ont en face. Et il y a un espèce de rapport de domination qui existe en amont, de toute manière, entre la victime et son agresseur. C'est comme si on avait un maître avec son disciple, un gourou, dans une...
Ouais. Voilà, les prêtres, bien sûr.
Donc il y a toujours ce pouvoir de domination, et quand en plus, en même temps, cette personne-là, le présumé agresseur, est célébré dans son monde, comment voulez-vous que la victime puisse avoir confiance dans le système parler, hein.
Ce qui est positif quand même aujourd'hui, c'est que la parole est quand même un peu libérée.
Bien sûr.
Pour des faits anciens, c'est bien, mais aussi pour des faits qui pourraient se produire
aujourd'hui. C'est ça qui est... Et d'ailleurs, il y a un adage féministe que j'aime beaucoup, c'est une femme se lève pour que des milliers se soulèvent.
Oui.
Et donc, j'espère que ça va continuer, que les femmes vont avoir confiance.
Merci. Oui, Yael Mellul, je rappelle que vous avez travaillé justement sur le Grenelle des violences et que vous intervenez régulièrement aussi, bien sûr, sur Sud Radio, dans les vraies voix, aux côtés de Philippe Bilger, avec Christophe Bordet.
C'est une autre
Vous prenez bien votre place, parce que c'est pas évident avec ces deux chameaux, si je puis dire. j'y arrive.
C'est grande voix.
Merci. Dans un instant.
Merci. L'enquête de la matinée avec nos invités qui viennent d'arriver. Cette question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux. L'apprentissage a-t-il encore une mauvaise image? Continuez à voter, bien sûr, tous vos commentaires au 0826 300 300. Et dans quelques instants, les audiences médias de Rémi Pernolet. À tout de suite.